VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 14h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Au Rwanda, le gouvernement est revenu sur sa décision de faire appel de l'acquittement de l'opposant Diane Rwigara en décembre, mettant de fait un terme aux poursuites judiciaires contre cette éminente personnalité qui ne ménage pas ses critiques contre le président Paul Kagame. Diane Rwigara et Samir Adeline, jugés notamment pour incitation à l'insurrection, avaient été acquittés le 6 décembre à Kigali. Et le parquet, qui avait requis 22 ans de réclusion contre l'opposante, avait fait appel dans la foulée. Lors de l'acquittement en décembre, le tribunal avait estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Élections en République démocratique du Congo, les résultats provisoires des scrutins du 30 décembre sont pour bientôt. C'est ce qu'a annoncé Corneille Nanga, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a dit hier soir que les résultats pourraient être disponibles d'ici 24 à 48 heures. Mardi, dans l'après-midi, des habitants de la capitale craignant des troubles ont pris d'assaut plutôt que d'habitude les transports collectifs sur la foi de la rumeur d'une proclamation imminente des résultats. Un vent de panique s'est aussi emparé de Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Katanga, dans le sud-est du pays. Les explications de Marval Nabila, notre correspondant sur place.
Dans les après-midi du mardi, les rumeurs que la CENI aurait proclamé les résultats de la présidentielle. Pour certains, c'était Félix Tshisekedi qui serait passé. Pour les autres, c'est Ramazani Shadary. Pour les autres, c'est Martin Fayoulou. Alors que certains s'apprêtaient déjà à manifester pour dire que leur candidat qui devait passer n'a pas été proclamé. Déjà, les magasins commençaient à fermer. Et la tendance était pour certains groupes à la révolte. Pour les autres, c'est panique générale et la rumeur s'est répandue dans le centre-ville de Lubumbashi. Les gens sont rentrés rapidement à la maison. Déjà vers 17h, il n'y avait pas assez de mouvement au centre-ville jusque dans la soirée. La peur et les gens sont en alerte et ils attendent la proclamation. Donc les gens restent tendus, on ne sait pas si les élèves iront à l'école et certains ont peur même de se dire s'ils peuvent aller au travail. C'est la psychose maintenant.
Marval Mabila, notre correspondant à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en RDC. Au Gabon, retour à la normale à Libreville, la capitale, après le putsch manqué de lundi matin. Pour rappel, des membres d'un commando étaient allés à la radio nationale pour appeler un soulèvement et annoncer la prochaine formation du Conseil national de restauration de la démocratie. La tentative de putsch a été très vite étouffée par les forces de sécurité. Idriss Fall a recueilli la réaction de Lionel Essono Ondo, leader du parti Réagir et ancien porte-parole de l'opposant Jean Ping.
Cet événement est malheureux, le signe de l'exaspération du peuple gabonais qui, depuis un certain temps, vit dans des conditions abominables et qui est instrumentalisé, manipulé par un régime politique qui ne veut pas reconnaître que M. Ali Bongo aujourd'hui est dans l'incapacité de diriger le pays. M. Ali Bongo a fait un AVC à Riyad en Arabie Saoudite le 24 octobre 2018. Comme toute personne, on peut tomber malade. Nous regrettons effectivement cet événement. Mais bientôt, 3 mois que M. Ali Bongo n'est pas au Gabon. Il se dit être en convalescence à Rabat au Maroc. Nous ne savons pas si Ali Bongo a encore la pleine capacité morale, intellectuelle et physique pour présider aux destinées du Gabon.
La population gabonaise n'a pas suivi l'appel lancé par les auteurs de ce coup manqué.
Je ne pense pas que l'objectif de ce commando, si on peut l'appeler ainsi, était d'amener à un soulèvement populaire immédiat. Notre analyse est plutôt qu'ils sont venus lancer un signal d'alerte pour dire ce que nous soupçonnons tous, que M. Ali Bongo Ondimba n'est plus en capacité de diriger convenablement le pays. Après son violent AVC, est aujourd'hui un peu hémiplégique. Nous l'avons constaté lors de la vidéo du 31 décembre 2018. C'est un Ali Bongo qui était incapable de prononcer correctement une phrase. Et ce commando a pris ses responsabilités pour soulever le voile entretenu par le régime en place.
Est-ce que ça veut dire que vous légitimez ce commando?
Nous sommes un petit pays, 1 800 000 habitants. Aucun Gabonais normalement constitué ne peut souhaiter qu'éclate au Gabon une escalade de violence ou que le pouvoir politique soit entre les mains de l'armée. Je minimise la portée du concept de push dans la mesure où nous avons vu des personnes un peu mal organisées, pas très bien structurées et dont le but essentiel était de faire passer un message et non de plonger le pays dans le désarroi. La tentative de putsch, si on peut l'appeler ainsi, nous ne légitimons pas la violence. Mais ceux qui participent aux actes de haute trahison envers l'État, envers le peuple gabonais, en choisissant la maladie de M. Ali Bongo, dans le but de confisquer le pouvoir au détriment des intérêts fondamentaux du pays, pour s'accaparer les richesses du Gabon, ceux-là sont ceux qui réellement cherchent le chaos au Gabon. Nous disons une seule et une seule chose. Si Ali Bongo peut aujourd'hui diriger le Gabon, après avoir vécu une tentative de putsch, une tentative de renversement, il est normal que M. Ali Bongo prenne la parole, qu'il dise et rassure son armée, qu'il rassure le peuple gabonais, qu'il dise à la communauté nationale et internationale qu'il y a encore au Gabon un capitaine qui tient la route.
Lionel Essono Ondo, leader du parti Réagir et ancien porte-parole de l'opposant Jean Ping.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, le gouvernement appelle les médias à la retenue dans la couverture du groupe djihadiste Boko Haram. L'armée nigériane a effectué une descente contre un journal accusé d'avoir divulgué des informations sensibles. Les détails avec Bagassi Koura.
Les médias doivent trouver un juste équilibre entre la liberté de diffuser des informations et la sécurité nationale, a déclaré le ministre de l'Information, Lai Mohamed. Il a prévenu que les médias doivent faire preuve de retenue dans la couverture de l'insurrection. Des soldats et des agents des services de renseignement ont fait irruption dimanche dans les bureaux du Daily Trust à Maïdougouri, Abuja et à Lagos. Ils ont saisi des ordinateurs et deux journalistes ont été arrêtés. Le quotidien avait publié un article en première page sur des plans militaires pour reprendre aux insurgés la ville de Baga sur les rives du lac Tchad. Cette ville a été temporairement prise par les djihadistes le 27 décembre. Les assaillants avaient mis en déroute en quelques heures quelques 500 soldats de la force multinationale mixte. Le porte-parole de l'armée, le général Sani Ousmane, a accusé le Daily Trust d'avoir divulgué des informations militaires classifiées qui ont donné aux islamistes une alerte précoce et ont saboté les opérations en mettant en danger la vie des troupes.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président américain Donald Trump a tenté mardi soir de rallier les Américains à son projet de mur à la frontière avec le Mexique, mettant en avant ce qu'il a appelé une crise humanitaire, mais ne faisant aucune concession à ses adversaires démocrates. Lors d'une allocution solennelle de 9 minutes, hier soir, Donald Trump s'est voulu rassembleur, renonçant à lancer une procédure d'urgence institutionnelle qui lui aurait permis de contourner l'opposition démocrate. Le point avec Jean-Roger Bion.
Au 18e jour d'un shutdown qui paralyse partiellement les administrations fédérales, Donald Trump a repris les arguments qu'il assène depuis des semaines par tweet interposé, mais sur un ton qui se voulait plus présidentiel.
Tonight, I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis. At our southern border.
Ce soir, je vous parle car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud, a-t-il lancé depuis le bureau ovale. Le locataire de la Maison Blanche a une nouvelle fois réclamé 5,7 milliards de dollars pour une barrière en acier plutôt qu'un mur en béton. Promesse emblématique de sa campagne, le mur est à ce jour resté lettre morte, les démocrates refusant de débloquer des fonds pour ce qu'ils qualifient de solution médiévale et l'exhortant une nouvelle fois à rouvrir le gouvernement.
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis.
Le président Trump doit cesser de prendre les Américains en otage, doit cesser de créer de toutes pièces une crise migratoire et humanitaire à la frontière, a lancé la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en réponse au discours de M. Trump. Après 24 heures d'intense spéculation à Washington, M. Trump n'a finalement pas annoncé le recours au National Emergency Act qui lui aurait permis de contourner le Congrès et de s'appuyer sur l'armée pour construire l'édifice. Cela dit, les négociations budgétaires sont au point mort. Depuis plus de 2 semaines, quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux sont contraints soit à rester chez eux, soit à travailler en attendant la fin du blocage pour être payés. Donald Trump va participer aujourd'hui à un déjeuner au Congrès avec les sénateurs républicains. Jeudi, il se rendra à la frontière sud pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de ce qu'il a appelé une crise de sécurité nationale.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.